France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
La mission des concerts de poche, c'est vraiment de créer des liens très forts entre les habitants à partir de projets musicaux qu'on emmène dans les campagnes, dans les montagnes.
Le MUMO, c'est du nomadisme culturel. Il va depuis 15 ans à la rencontre des habitants, des Français. Un tiers des Français habitent dans des zones rurales.
L'idée est évidemment d'aller vers les publics les plus éloignés et de leur offrir la même qualité de spectacle.
Bien sûr, nous avons besoin de la confiance des financeurs pour que cela continue. Mais chaque année, c'est un combat.
Elle a promis des actes concrets pour la fin du mois. La ministre de la Culture a placé le printemps sous le signe de la ruralité. Et en visite à Martel, dans le Lot, le 5 avril, Rachida Dati a répété son objectif de préserver et enrichir la vie culturelle de nos régions. Cette priorité accordée au monde rural, elle l'avait affirmée dès le mois de janvier, soulignant que dans ces territoires où vivent 22 millions de personnes, on ne trouve que 5% des scènes labellisées « spectacles vivants ». Comment changer la donne? Comment offrir au public rural la même facilité d'accès à des offres artistiques qu'aux citadins? Pour répondre à cette question, une consultation nationale a été lancée. Le printemps de la ruralité a permis de recueillir plus de 30 000 contributions venues de toute la France, d'élus, du public, d'acteurs culturels ou d'associations. Et les Assises nationales de la culture en milieu rural devront bientôt en tirer les enseignements. Mais le ministère de la Culture ne part pas d'une feuille blanche. Diffusion hors les murs, résidences délocalisées, ateliers de pratiques culturelles, des dispositifs, soutenus pour certains de longue date par l'État, permettent déjà à des villages ou à des publics dits éloignés de bénéficier d'offres variées, offres qui mériteraient sans doute d'être un peu plus connues. La culture sur les chemins de campagne, c'est un reportage signé Benoît Grossin. Bonjour Benoît.
Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous.
Parmi toutes ces initiatives qui existent en zone rurale et qui contribuent donc à désenclaver culturellement ces territoires, vous avez choisi de nous en présenter quatre.
Quatre dispositifs, les concerts de poche, le MUMO ou musée mobile, la comédie itinérante et les paniers artistiques nationales ou régionales, plus ou moins soutenus financièrement par l'État ou les collectivités locales, et avec le même objectif, atteindre des publics dans des lieux sans structure ou sans grande offre culturelle. Et dans tous les cas également, on va l'entendre Aurélie, la mobilisation des acteurs, de tous les acteurs professionnels et habitants est tout à fait déterminante.
Merci Benoît, il est temps de saluer notre invité. Bonjour Emmanuel Vallon.
Bonjour.
Professeur émérite de sociologie politique à l'Université Paris-Nanterre, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Observatoire des politiques culturelles et du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous allez donc écouter avec nous le reportage de Benoît Grossin avant d'y réagir. Nous nous intéressons d'abord aux concerts de poche qui existent depuis 2005 et nous prenons la route pour Auxerre, un village de 450 habitants en Seine-et-Marne. Nous n'allons pas dans une salle de spectacle mais dans un centre de formation d'apprentissage. Un CFA BTP.
Un établissement où des jeunes de 15 à 29 ans apprennent les métiers de la maçonnerie, de la plomberie, de la métallerie dans des ateliers très bruyants que m'a fait découvrir à mon arrivée Labi Bascouban, l'adjoint de direction chargé du suivi socio-éducatif.
Ah oui, c'est du vacarme, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a rien de synchronisé, ça c'est sûr. Contrairement peut-être à la musique classique où tout est totalement orchestré.
Bon les amis, on fait une petite analyse.
Un tout autre atelier pour une quinzaine d'élèves proposé par l'association Les Concerts de Poche dans une salle plus calme du CFA consacrée à l'habillage sonore au cinéma avec un peu de chahut est animé par Jean-Carl Feldis.
Les gars au fond.
Musicien, compositeur et bruiteur.
Alors je vous montre l'extrait, il n'est pas facile. Commencez à réfléchir au son qu'on devrait entendre. Combien de familles de sons dans un film?
4.
Bravo. Allez, vous me redites quelle famille?
La musique.
Bravo, les sons d'ambiance, les bruitages et les
voix.
Génial. Comment on appelle un film où il n'y a pas de son?
Muet.
Je vous le montre. À la base, il y a du son sur ce film, les amis. Ça s'appelle La guerre du feu de Jean-Jacques Hano. J'ai fait exprès d'enlever le son. Est-ce que vous avez une idée comment on va faire le bruit du feu?
Non.
On allume un briquet.
Alors, allez, un peu de magie dans ma valise magique. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un balai.
Et autre chose?
Une pomme de pain.
Deux petites pommes de pain. Regardez, je vais gratter mon balai comme ça, de façon très aléatoire, comme si je me grattais la tête. Et je vais écraser mes deux pommes de pain de façon très aléatoire aussi. Qui veut venir faire ça dans l'extrait? Ouais, toi? Peut-être deux, il en faudrait un deuxième. Vas-y, essaye. Ok. Et vas-y, essaye de les écraser très lentement. Génial. Génial. Je vais chercher mon micro avec celui lequel j'enregistre. Silence, silence, on écoutera après. Allez-y.
Une expérience très enrichissante pour Océano, 15 ans en CAP maçonnerie.
Moi, je vois ce travail comme une magie. On passe d'un truc où il y a zéro son, on voit juste des images, à plein de sons. Je trouve ça, pour moi, une belle découverte. Et comme pour mon travail qui est la maçonnerie, on construit quelque chose. C'est différent de ce qu'on fait. On n'a même pas de matière de tout ce qui est musique ou de choses comme ça. Et du coup, ouais, c'est une espèce d'excitation de savoir ce genre de choses. Je pourrais en raconter à d'autres personnes qui se disent comment ils ont fait ça dans certains films. Et je pourrais leur répondre.
Et c'est même une révélation pour Antoine, 18 ans, en CAP métallerie.
On n'a pas eu tout de musique de base au CFA et j'adore ça. C'est une façon de voir le monde. Si, admettons, je rate le CAP de métallier, je vais peut-être essayer de faire comme Jean-Carl, faire bruteur.
Jean-Carl Feldis, qui cherche avant tout à ouvrir, dit-il, les oreilles de ces jeunes.
En espérant que ça leur ouvre l'esprit. J'aurais montré du Tati, du Kubrick. Vous voyez, des réalisateurs que j'adore et qui connaissent pas tellement. Donc je sais qu'ils passent des heures et des heures sur leur téléphone à regarder les images. Je ne sais pas ce qu'ils regardent d'ailleurs. On imagine, mais on ne sait pas trop. C'est que juste des fois, c'est pas simple. Dans leur ville ou leur village, il n'y a pas de bar. Ils peuvent pas se regrouper le soir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et moi, j'étais très très content d'eux parce que je les ai emmenés dans des endroits qu'ils connaissent pas du tout.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible?
Mais tout est possible. Dès qu'on a accès à des choses, on y arrive. Voilà, tout simplement, il faut juste avoir accès à ces choses-là. Je leur amène un bon micro, on travaille avec des bons instruments, avec un bon système son. Et j'ai envie de les amener vraiment vers le haut. Et je me dis, comme ça, ils iront voir des films au cinéma.
Et écouter de la musique.
Et aller écouter de la musique en live. Je crois que c'est ça. Tout est là. Vous voyez, la musique vivante, le spectacle vivant. Moi, je viens de là et j'ai envie de les amener vers ça.
Et quand l'air passe, ça aspire, comme ça, ça fait vibrer l'ange. Ça fait...
Et les ateliers des concerts de poche se concluent toujours par un concert. Au CFA BTP Docker, c'est le quintet Arte Combo qui s'est produit le 8 février dernier sur le thème des musiques de films, après un échange avec les jeunes sur place sous forme d'un jeu, un quiz musical.
Et comment je vous avais fait ça? Et tout de suite, il n'y a que trois notes. Trois fois la même note. Et
le bassoniste d'Arte Combo, Franck Siebold, a participé à trois journées d'atelier.
Avec les élèves du CFA et dans les communes vraiment autour, très très proches d'ici, dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, dans des EHPAD aussi. Et le but, c'est vraiment de créer un objet artistique en 50 minutes. Donc c'est vraiment un défi en fait de faire ça. Et on propose aux participants de nous donner un scénario, donc avec un lieu, des personnages, une action, des péripéties, une fin. Et il y a un comédien qui raconte cette histoire, qui improvise l'histoire. Et moi, en tant que musicien, j'illustre musicalement chaque lieu, chaque personnage. Alors ces ateliers, ça apporte, je pense, une première approche de la musique classique. Le public qu'on rencontre n'a pas forcément accès à la musique classique. Évidemment qu'un public dans une salle parisienne a peut-être plus les codes qu'un public en zone rurale. Mais en tout cas, au niveau imagination, tout le monde a l'imagination. Tout le monde peut être touché, sensibilisé à la musique. Il n'y a pas besoin de connaître la musique, de comprendre la musique pour être touché. Voilà, notre mission, c'est ça, oui, d'apporter ça dans les zones rurales.
La fondatrice et présidente des concerts de poche, Gisèle Magnan, présente au CFA Docker pour le concert d'Arte Combo, explique la portée du travail de son association depuis 2005 dans quelques 360 communes, un peu partout en France.
Les concerts de poche, ce sont par année 2400 heures d'atelier et 125 concerts. Alors de Sarrasmain en Moselle par exemple à Saint-Jean-Scapel dans les Flandres ou bien à Belmont-sur-Rance dans l'Aveyron. Dans presque toute la France, une bonne dizaine de régions sur les 13 régions. Avec des artistes illustres comme Augustin Dumay, le Quatuor Modigliani, Nathalie Dessay, Karine Dehaye, mais également des jeunes artistes en devenir. Et donc effectivement, on va dans des toutes petites communes, extrêmement rurales, et on est un système totalement itinérant. Et donc la mission des concerts de poche, c'est vraiment de créer des liens très fort entre les habitants à partir de projets musicaux, de musique classique, lyrique, jazz, qu'on emmène dans les campagnes, dans les montagnes. Et c'est passionnant de s'adresser à des personnes qui sont très néophytes, qui connaissent pas, qui se disent même « c'est pas pour moi ». Et en fait, la musique, en plus de ça, elle a un pouvoir vraiment d'unifier les gens entre eux.
Est-ce que cela a suscité des vocations dans les zones rurales ?
Eh bien, je crois, parce que très souvent, on nous dit que après notre passage, il y a beaucoup plus d'inscriptions dans les écoles de musique associatives, les chorales. On crée énormément de chorales, nous, on adore ça. On interprète Schubert, on interprète Bartok, Stravinsky. C'est pas seulement les musiciens qui sont sur la scène, mais c'est les habitants qui sont avec eux.
Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu et pris en compte dans ce printemps de la ruralité ?
Alors, le printemps de la ruralité, c'est vrai qu'on a été très heureux, en tout cas, à être appelé pour la grande concertation. Je pense qu'on est un outil, qui commence à être connu. On aimerait avoir un label de scène nationale itinérante, scène musicale itinérante. On en a besoin. On a besoin d'être plus entendu. On sait qu'on est utile. On aimerait être encore plus utilisé.
Et en présentant sa mission à la fois comme artistique, sociale et territoriale, l'association Les Concerts de Poche assure que plus de 50% de ses projets sont co-construits chaque saison avec les partenaires locaux en milieu rural, que plus de la moitié de ses projets se déroulent dans la grande ruralité.
De tout petits villages sont aussi visités très régulièrement par des bibliobus, de manière exceptionnelle dans le centre-Val de Loire par des cinémobiles et de plus en plus, Benoît, depuis quelques années, par des camions-musées.
Les camions du MUMO, MUMO pour musée mobile, le premier a vu le jour en 2011 et il en existe deux aujourd'hui. Un MUMO qui expose depuis 2017 des œuvres issues des collections des FRAC, région par région. Le deuxième, en partenariat avec le Centre Pompidou, parcourt les routes d'Île-de-France, de Normandie et des Hauts-de-France, Aurélie, depuis 2022.
Et c'est ce camion musée que vous avez découvert lors de son escale dans la petite commune de Marines, dans le Val d'Oise.
Marines, située au cœur du parc naturel régional du Vexin français. Nous sommes à quelques mètres d'une école sur la place de la mairie.
Quand je vois ce camion-musée, je repense à mon enfance.
La fondatrice du MUMO, Ingrid Brochard.
Parce qu'en fait, j'ai moi-même vécu dans des zones très rurales et petite, j'attendais le bibliobus. Ça a été vraiment mon inspiration quand j'ai créé le musée mobile. Oui, je suis assez émue puisque j'imagine pouvoir apporter des étoiles dans les yeux d'enfants. Il n'y a pas forcément grand-chose. Là, si on est dans une petite ville de 3600 habitants, 40% des enfants qui vont visiter, voire 70% pour certaines régions, n'ont jamais été au musée. Tout est inversé avec le musée mobile. C'est le musée mobile qui vient à vous. Et c'est vraiment aller à la rencontre des gens éloignés de la culture.
Pour accéder au camion rouge et vert, il y a un escalier en métal à monter avant la fermeture de la porte par Anaïs, jeune médiatrice formée par le Centre Pompidou.
Alors, prenez un petit temps pour observer.
Comme dans une galerie d'art, tout en blanc et en longueur, c'est le début de la visite de l'exposition « Être vivant » d'une vingtaine d'œuvres pour des enfants accompagnés par des membres de leur famille.
Essayez peut-être de vous placer devant l'œuvre qui, pour vous, communique le plus cette idée d'être vivant. Essayez de choisir celle où vous voyez le plus l'incarnation de ce titre « Être vivant ». Allez-y, chacun, chacune, choisissez, prenez votre temps.
Pas de cartel, pas d'indication.
Sur cette œuvre.
Pour laisser libre cours à l'imagination des visiteurs.
Qu'est-ce qu'on voit dessus ?
Des arbres.
Des arbres, ouais. Est-ce que tu vois autre chose que des arbres ?
Des étoiles.
Absolument. Des étoiles et le ciel. Est-ce que ces étoiles, elles sont comme nous, on a l'habitude de voir les étoiles ? Non. Pourquoi non ?
Elles sont verticales.
Très bien. Elles sont verticales, absolument. Elles sont rangées, ces étoiles. Elles sont un petit peu ordonnées. Le titre de celle-ci, c'est 3 verticales. Et donc, on est dans les années 1965, à savoir qu'à peu près dans les années 1960, c'est le moment où on débute l'observation du ciel. On a des outils de plus en plus précis qui nous permettent d'observer le ciel, de peut-être mieux le comprendre. En tout cas, le ciel, c'est quelque chose qui nous reste aussi très mystérieux et divin pour beaucoup d'artistes. Et finalement, pour eux, eh bien, l'idée de ranger ces étoiles un petit peu, de leur donner une forme, de leur donner un symbole, c'est aussi l'idée peut-être de faire face à ce mystère, de donner une réponse à ce mystère. Et c'est un petit peu ici ce que Francesco Infante Arana va essayer de faire. Il va essayer d'ordonner toutes ces étoiles-là.
La visite s'achève par un atelier pratique à l'extérieur, sur une terrasse couverte attenante au camion musée.
Avec cette petite pipette.
Ça tâche un petit peu. Est-ce que tu veux un tablier ?
Tiens. Alors je vous laisse les feuilles si vous souhaitez. Et puis, l'idée après, ça va être d'y trouver un titre.
C'est un peu comme une île.
Enea, 8 ans, est déjà peintre en herbe, sans qu'elle a bien profité de cette expérience.
C'est un peu nouveau pour moi. J'ai vu beaucoup de tableaux, ça me donne des idées. Comme ça, je peux faire des tableaux à la maison. Ça m'apporte de la confiance. Je m'en souviendrai de ça. Et du coup, moi, je me sens très, très bien quand je fais de l'art.
Et puis, avec votre miroir, vous allez donc venir déclencher un geste. Alors,
et parmi les adultes, cette habitante de Marine, qui se dit à la fois si proche et si loin, à un peu plus d'une heure de Paris, Nicole, âgée de 66 ans, est aussi comblée.
C'est le Centre Pompidou en réduit, en miniature, qui vient à nous. Je ne sais pas du tout si ces artistes sont très connus, mais en tout cas, c'est une grande chance de pouvoir, nous, avant qu'on nous parle de ces œuvres, de s'exprimer sur notre ressenti et d'accueillir ce qu'on y voit et comment on peut aller plus loin dans l'interprétation d'un tableau, d'une peinture. Et c'est une chance ici en milieu rural pour éviter tout le stress d'aller à Paris, se garer. Là, on arrive tout de suite, donc c'est facile, c'est agréable, c'est juste à côté, c'est une très très belle démarche.
Il faudrait que ça aille plus loin, que ça soit général.
Ah, si ça pouvait se faire beaucoup, souvent, avec différents musées, ça serait extraordinaire.
Extraordinaire investissement déjà pour le Centre Pompidou.
Le MUMO, c'est le plus gros chantier hors les murs en France du Centre Pompidou.
Delphine Coffin, chargée de projet à la direction des publics du Musée national d'art moderne.
Chaque exposition du MUMO représente plusieurs mois de travail. Les règles de la scénographie sont respectées, sauf que c'est accroché 20 cm en dessous. L'idée, c'est que c'est accessible à tout le monde, les petits comme les grands. Nous devons vérifier techniquement à chaque fois pour chaque œuvre sa possibilité de pouvoir voyager. On a 3 socles dans le camion, on peut accueillir 1 à 2 sculptures. Et à chaque fois, c'est toujours un enjeu. On peut évidemment pas circuler avec de la céramique, par exemple, même du bois. C'est le bronze, pratiquement, qui à chaque fois est le plus adéquat. L'œuvre actuelle de Jean Harpe, dans la tournée Être vivant, a été coffrée à l'intérieur pour pouvoir supporter les vibrations. Toutes ces contraintes mobilisent un nombre important d'agents du Centre Pompidou, de l'attaché de collection à la restauration, en passant par l'encadrement.
Le MUMO, depuis sa création en 2011, est soutenu par le ministère de la Culture, par les territoires, par du mécénat. Et à l'heure du printemps de la ruralité, sa fondatrice Ingrid Brochard s'adresse directement à Rachida Dati.
En fait, elle a attendu, elle aussi, le bibliobus, comme moi, à l'âge de 10 ans. Moi, j'avais écrit une lettre au commandant Cousteau, elle en a écrit une à l'émission Mosaïque. Donc, c'est peut-être le moment pour le musée mobile de se dupliquer. Le MUMO, ça fait 15 ans qu'il est dans le printemps de la ruralité. Il va depuis 15 ans à la rencontre des habitants, des Français. Un tiers des Français habitent dans des zones rurales. Ça fonctionne 6 jours sur 7, 50 semaines par an. Et tout ça, ça fait plus de 200 000 visiteurs. Le MUMO, c'est du nomadisme culturel.
Vous lancez vous-même un appel à Rachida Dati ?
En effet, j'ai écrit une lettre à Madame la Ministre pour lui proposer un projet de grande envergure, 13 camions dans 13 régions, une flotte de camions. Chaque région pourrait choisir le contenu de son camion et comme ça aller à la rencontre des habitants du territoire.
Et alors qu'on entend encore tourner le moteur du MUMO, Benoît, nous allons nous rendre maintenant dans le sud de la Drôme pour une étape de la comédie itinérante.
À Roussas, joli petit village perché de moins de 400 habitants, quelques heures avant la représentation d'une création, l'Adilum, produite par le Centre Dramatique National CDN Drôme-Ardèche. Il est 10h, devant l'espace Saint-Germain, une ancienne église transformée en salle de spectacle. Plusieurs membres d'une association sur place attendent les fourgons de la comédie itinérante, en provenance d'un autre village où s'est tenue la veille une représentation de l'Adilum.
Bonjour
Nicolas, enchanté.
Et bonjour.
Bonjour.
Sylvain.
On ouvre la porte.
Sylvain Brunat, le régisseur général et un technicien, sont aidés dès leur arrivée pour le déchargement par les bénévoles.
On a deux fourgons de 12 et 14 mètres cubes. C'est beaucoup pour une petite forme, ça commence à être pas mal. Ouais. L'aide des bénévoles, c'est indispensable, on ne pourrait pas le faire sans. Parce que nous, on s'épuiserait à faire ça à deux, sinon toutes les caisses à faire rouler, à porter. Ouais, non, c'est... Et puis ça fait partie du concept de la comédie itinérante aussi, de travailler avec les associations locales ou les collectivités. C'est important ce partenariat.
Alors où c'est qu'on va avec ça? Là, on va aller au fond de la scène.
On l'a fait.
Ah oui, là, vous avez, il y a des petites marches, effectivement.
C'est le même matériel de village en village à transporter, à mettre en place.
Oui, en fait, nous, on amène tout. Le son, la lumière, on amène même une cafetière pour les loges. L'idée, c'est de reproduire à l'identique dans les salles à chaque fois la même chose, en étant autonome. Et l'intérêt aussi, c'est que les artistes jouent tous les soirs dans un espace à peu près identique, ce qui permet de faire du date-à-date sans qu'ils aient besoin de trop s'adapter, de trop faire des raccords quand la scénographie change. Voilà. Donc on leur offre un petit écrin, comme si on avait un théâtre qu'on peut emmener partout avec nous. Un théâtre ambulant, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait une salle virtuelle de spectacle supplémentaire à la comédie.
Et parmi les bénévoles qui prêtent main forte, Jean-Luc Groer, ancien médecin hospitalier à la retraite, est particulièrement mobilisé depuis 3 ans à la tête de l'association Culture et Festivités à Roussas.
On a beaucoup de troupes amateurs, plus ou moins bonne qualité. Alors c'est l'occasion d'avoir vraiment une équipe de comédiens professionnels avec des spectacles de qualité. C'est vital parce que ça complète vraiment notre besoin de culture sur le terrain. C'est de faire se rencontrer la population et d'échanger. On pense que la société actuelle a vraiment besoin de ça pour aller mieux. Le but de notre engagement, c'est d'essayer de rétablir et d'entretenir un ciment sociétal.
Et dans l'espace culturel de Roussas, après les dernières installations techniques, c'est le début des répétitions pour la comédienne Léopoldine Hummel et l'autrice et metteuse en scène Tunde Deak.
Pardon, je ne parle pas hongrois. Au lieu de partir, Maria fait un pas vers moi et se présente plus en détail, en français, mais avec un accent hongrois caractéristique.
Bonjour, je m'appelle Maria, je suis psychologue. Je passe voir les accouchés pour vérifier si tout va bien.
Et de village en village, pour la tournée de son spectacle inspiré d'une chanson populaire hongroise, l'Adilum sur la double culture, Tunde Deak fait participer à chaque fois un habitant ou une habitante.
La comédie itinérante, le fait de tourner chaque soir dans des villages différents, ça permet d'apporter notre regard sur la double culture et en partageant cette dimension avec une spectatrice complice, d'ouvrir le regard et de porter aussi des différences et de prendre le temps de les écouter et d'entendre la complexité du monde.
En un lejano bosque ya canta el cucu.
À Roussas, c'est une Chilienne, Janaína, qui est appelée à monter sur scène en commençant par interpréter cette chanson.
C'est génial de pouvoir partager une partie de ma culture chilienne avec les autres, avec les gens du village. Ça me touche et ça me fait de bien remémorer et avoir des souvenirs de ces chansons de mon enfance.
L'Adilum, devant une salle pleine, se termine aussi en chanson. « À l'issue de la représentation, une spectatrice, Geneviève, âgée de 56 ans, est à la fois satisfaite et quelque peu critique.
On est à la campagne, donc on est un peu loin de tous les pôles culturels théâtraux. Donc le fait que la Comédie de Valence se déplace dans les petits villages assez fréquemment, à Roussas et à Valory, qui est un petit village à côté, c'est une ouverture culturelle qu'on n'aurait pas sinon. Parce qu'à part des cinémas, on n'a pas autre chose. C'est un peu toujours les mêmes personnes qu'on retrouve dans la salle de Roussas et dans la salle de Valory. Les gens qui aiment la culture et qui recherchent ça et qui sortent.
À votre regret ?
Un petit peu, ça serait bien que ça c'est dommage qu'on n'arrive pas à toucher plus de personnes, ouais. Mais c'est déjà pas mal, il y avait du monde là ce soir. C'est toujours, oui, c'est un peu regrettable. C'est toujours une certaine frange de population, il n'y a pas beaucoup de jeunes là, dans la salle ce soir. Ça c'est un peu dommage, on n'arrive pas à atteindre peut-être cet objectif-là.
La comédie itinérante du CDN Drôme Ardèche existe depuis plus de 20 ans. Avec 5 spectacles pour plus de 60 représentations dans autant de communes par saison, ce dispositif mobile de spectacles vivants est cité dans le rapport de l'IJAC, l'Inspection Générale des Affaires Culturelles, publié au mois de janvier sur l'action des structures labellisées dans les zones rurales. Le metteur en scène et scénographe Marc Lenné est depuis 2020 directeur de la Comédie de Valence.
C'est le seul centre dramatique national bidépartemental et qui donc, avec la comédie itinérante, s'est doté d'un dispositif de décentralisation absolument exceptionnel. C'est unique en France dans son ampleur et dans sa capacité à rayonner sur près de 80 km, dans des villages, des communautés de communes, qui nous accueillent avec des relais associatifs pour accueillir des spectacles qu'on pourrait présenter dans des salles traditionnelles. C'est toute la singularité du projet de la Comédie de Valence. À partir de cette volonté comme ça de pouvoir jouer partout, eh bien, on s'est doté d'un dispositif, là, pour le coup, unique en France, qui s'intitule La Cabane. Et on installe donc une petite scène, une boîte noire, qui est l'équivalent d'une boîte noire théâtrale, des gradins. C'est léger, mobile, nomade. Et on accueille entre 70 et 90 spectateurs.
Avec la même qualité qu'un plateau traditionnel.
Absolument. Ce sont des spectacles qu'on peut jouer ailleurs, dans le réseau national. Par exemple, une de mes dernières créations qui s'appelle Nos paysages mineurs, qui tourne partout en France, dans les théâtres les plus importants, je parle en termes de dimension, a commencé sa tournée dans les villages de Drôme et d'Ardèche. L'idée est évidemment d'aller vers les publics les plus éloignés et de leur offrir les mêmes spectacles, la même qualité de spectacle. C'est extrêmement important qu'aucun spectateur ne se sente laissé de côté. Ce maillage, il fait société.
Est-ce que c'est une réflexion, finalement, sur la relation qui lie l'institution culturelle au territoire ?
Absolument. C'est assez récent, finalement, de se dire que c'est à l'institution d'aller vers le territoire et non pas d'attirer un public ou des spectateurs. Ce désir comme ça de se rapprocher au plus près de tous les publics, je pense que la comédie itinérante en est un exemple formidable.
Qui a besoin d'un financement ?
Absolument. Sans l'argent public, sans les subventions de l'État, de nos départements partenaires, de la région, nous n'arriverions pas à mener à bien cette aventure.
La comédie itinérante de la Comédie de Valence coûte environ 250 000 euros par an. Financement assuré principalement par les départements de Drôme et d'Ardèche.
Et pour la culture en milieu rural, le financement est évidemment déterminant. On en a une autre illustration dans ce dernier volet du grand reportage sur les paniers artistiques, Benoît.
Les paniers artistiques, Aurélie, ce sont des formes innovantes de création pluridisciplinaire en circuit court, initié après la crise du Covid et construit sur le modèle des paniers de légumes AMAP, avec des artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble pour des publics qui découvrent au dernier moment, gratuitement, le jour de la représentation, le contenu de leur spectacle créé en quelques jours gratuitement. Cela veut dire d'abord une nécessité de financement public. 120 000 euros, c'est ce que vient de débloquer la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour permettre à l'association Ouvrir l'horizon dans la région de mettre en œuvre une quatrième saison de ces paniers artistiques.
Et vous avez assisté à son démarrage au nord de Valence, dans la commune de Tain-l'Hermitage.
Entre Drôme et Ardèche, dans cette petite ville de 6 000 habitants, entourée par des vignes et traversée par le Rhône, c'est dans l'école de musique et de danse, prêtée par la communauté de communes, que débutent les répétitions d'une version remaniée et réduite de l'opéra Nabucco de Verdi. Avec un duo d'ardéchois en création, un chanteur lyrique et une jeune comédienne,
Jade Garnier qui découvre son partenaire.
Avec à leur tête, Zacharia.
Justement, se faire rencontrer des artistes qui ne se connaissent pas à l'origine, mais qui habitent un même territoire. Et c'est vraiment aussi la rencontre de disciplines qui n'auraient peut-être pas travaillé ensemble à tenter et à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait dans des créations un petit peu classiques. Donc nous, ça nous enrichit artistiquement. Et puis même pour le public, ça donne à voir des choses nouvelles parce que c'est la cohabitation entre deux disciplines différentes.
Un spectacle dont le public apprend tout en le découvrant.
C'est ça, les spectateurs ne sont pas au courant de ce qu'ils vont voir, c'est une sorte de surprise, ils arrivent et la forme apparaît pour eux telle qu'on l'a construite.
La foudre de ma vengeance est déjà suspendue sur vos têtes.
Alors là, du coup, quand le personnage parle, on a dit...
Julie Machu, artiste associée, est à leur côté pour la mise en scène.
Paf, un regard, un temps, et puis on y va.
C'est une furie que cet amour, il peut t'apporter la vie ou la mort.
Ce panier artistique, ce Nabucco en 30 minutes, est vraiment un projet alternatif pour Denis Boiraillon, sans emploi, après 12 ans passés dans les chœurs d'opéra.
J'ai 39 ans, j'habite dans la campagne ardéchoise, à une demi-heure de route d'ici. C'est un projet important pour moi parce qu'il arrive dans une année très vide professionnellement. Je suis aussi pénalisé par le fait d'habiter à la campagne, notamment dans le domaine lyrique, parce que l'emploi est en ville. Ça permet de se redonner confiance. C'est une expérience exceptionnelle, intense, et les choses sont pensées d'en bas, depuis les salariés, alors qu'on a tendance à aller toujours dans des structures où les choses sont pensées par des directeurs artistiques, des metteurs en scène. Là, ça vient d'en bas parce que l'association décide de faire confiance au professionnalisme de chaque personne. On ne nous demande pas quelles sont nos compétences professionnelles. On se dit que voilà, si on a travaillé professionnellement, alors on est capable de créer et de monter un spectacle.
Les artistes sont rémunérés pour 5 jours de création et 5 représentations dans 5 lieux différents, et le public sera forcément au rendez-vous, explique Agata Avlasevich, chargée de production des paniers artistiques.
C'est toujours, toujours gratuit pour les publics, en EHPAD, centre de loisirs, école, dans des tout petits villages, et donc chaque lieu convoque lui-même son public pour les représentations, et le spectacle est prévu notamment pour être joué devant un public ado dans un tout petit village en milieu rural en Ardèche.
Et ces paniers artistiques ne pourraient pas voir le jour sans financement au préalable, sans les 120 000 euros accordés cette année par les services de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Nous les avons convaincus lors de rendez-vous, nous les avons convaincus lors de représentations, nous les avons convaincus de par la qualité, de par la cohérence dans les territoires.
Antonia Vitti, coordinatrice de l'association Ouvrir l'Horizon, en Auvergne-Rhône-Alpes.
On fait en sorte que les réseaux se croisent, donc des artistes de disciplines différentes qui se croisent, qui continuent à travailler ensemble, on ouvre le réseau. En 3 ans, il y a eu 121 représentations artistiques. Nous avons aidé et mis en connexion 71 artistes, 110 professionnels, donc si on rajoute les chargés de production territoriale et les régisseurs-régisseuses, et nous avons touché 86 lieux non dédiés au spectacle, dans des petites communes, dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est un tremplin pour l'avenir.
Moi, surtout, ce que j'espère, c'est que nous avons créé un maillage territorial qui est très, très fin. Donc oui, ce maillage, il est déjà là. Là, maintenant, bien sûr, nous avons besoin de la confiance des financeurs pour que cela continue. Mais chaque année, c'est un combat. Curieusement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez, ne nous soutient pas, alors que le projet coche toutes les cases de leur politique culturelle.
Les paniers artistiques ont été inventés pendant la crise Covid, pendant le confinement, dans la région nantaise, où l'aventure prend fin, faute de financement public. La comédienne et costumière Martine Ritz, cofondatrice du dispositif, est membre du syndicat français des artistes interprètes SFA-CGT, est désolé d'annoncer la prochaine liquidation de l'association Ouvrir l'Horizon en Pays de la Loire.
Notre idée, inventée par des artistes et des techniciens pendant la crise Covid, c'était de faire travailler des professionnels du spectacle et puis d'aller de manière innovante à la rencontre des publics, notamment en milieu rural. Cette idée a fait des émules dans plusieurs régions, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France. Et aujourd'hui, après 4 ans d'existence, 615 représentations, plus de 30 000 spectateurs, eh bien, en Pays de la Loire, on est obligé de baisser le rideau, là où tout a commencé. On est obligé de baisser le rideau puisque la DRAC ne nous soutient plus, les collectivités territoriales non plus. Ils réclament un programme à l'avance et pour nous, ce n'est pas du tout la philosophie de départ des paniers artistiques. C'est dommage parce qu'on a pu constater la capacité de nos paniers à attirer de nouveaux publics. Je me souviens d'une représentation d'un panier dans un village près de Nantes, avec un musicien, 2 danseurs contemporains. On a vu arriver au loin un scooter avec 2 jeunes qui visiblement n'avaient pas du tout envie de s'arrêter. Ils voulaient traverser l'espace scénique. Et puis, plus ils se sont rapprochés, plus ils ont ralenti pour finalement s'arrêter puis regarder la représentation. Et là, je me suis dit, c'est gagné. Notre idée, elle est juste, elle est efficace, concrète.
Que dire des paniers artistiques aujourd'hui à l'heure des assises de la culture en milieu rural ?
Les assises de la culture telles qu'elles sont prévues là, c'est encore une fois quelque chose qui arrive du haut. Ce qu'il faut, c'est que les choses arrivent à l'horizontale. Il faut que ça arrive des professionnels eux-mêmes, il faut que ça arrive des publics, il faut que ça arrive des associations. Les paniers vont aux spectateurs. C'est très direct, en fait. Et comme c'est un dispositif léger, il va partout. Donc, il répond exactement à la difficulté dans les milieux ruraux où il n'y a pas forcément les structures. En Pays de la Loire, le dispositif, il est réclamé par les accueillants et nous, on ne peut plus. Donc, il va y avoir un manque. Donc, j'espère que les assises vont parler de tous les endroits où il y a des manques et comment les professionnels sont en capacité de les remplir.
Viti me tutti, cadranno, cadranno mai.
La culture sur les chemins de campagne, un reportage de Benoît Grossin.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Et l'invité de ce grand reportage est Emmanuel Vallon, professeur émérite de sociologie politique à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des politiques culturelles. Les territoires ruraux ne sont pas, comme pourraient le faire penser certains discours, des déserts culturels. On vient d'avoir quelques exemples d'initiatives portées par des acteurs très engagés. Leur point commun, c'est la pratique de l'itinérance. C'est un atout majeur en zone rurale, Emmanuel Vallon.
Ce n'est pas uniquement l'itinérance ou le nomadisme. Il y a des structures dans la plupart des contrées. Commençons par les bibliothèques municipales qui sont des portes d'entrée vers le savoir, que ce soit sur le texte ou sur l'écran. Continuons avec les ciné-clubs et les cinémas d'art et d'essai, dont plusieurs sont décentralisés, même s'il y en a aussi qui vont sur des camions mobiles comme la Fédération des œuvres laïques et d'autres associations d'éducation populaire le pratique. Ce sont aussi des compagnies de toutes les disciplines qui sont disséminées sur le territoire. Elles sont venues souvent parce que le prix du foncier était beaucoup plus limité, accessible, et l'espace était à disposition. Et puis, renouant avec des pratiques qui furent celles des impressionnistes, même plus avant de l'école de Barbizon ou de Pont-Aven, des artistes s'installent en milieu rural, pas forcément pour capter une lumière ou des couleurs, mais aussi pour faire des rencontres. Et depuis le peintre ou plasticien anonyme jusqu'à Anselm Kiefer, on trouve ce genre d'acteurs, quelquefois très très bien intégrés sur les territoires les plus divers.
Alors il y a aussi beaucoup de festivals en zone rural, mais leur particularité, c'est évidemment la saisonnalité, ce qui fait qu'il y a des périodes creuses en opposition à la haute saison.
Alors, parmi les grands festivals qui se situent dans des villes moyennes, on peut par exemple citer celui d'Aurillac, donc dans la préfecture du Cantal, entouré de zones rurales, il y a tout de même, depuis quelques années, une forme de permanence à travers des ateliers d'action artistique ou d'éducation artistique envers les collèges, les écoles, les lycées, mais aussi parce qu'il y a des structures de résidence qui se sont installées, le parapluie, pour ne pas le nommer, dans cette région. Quand on regarde le maillage national des pôles qui sont labellisés ou les centres de création qui sont labellisés, il y a environ 13 ou 14 catégories comme celle-ci, sans même compter les scènes conventionnées d'intérêt national ou pour les territoires, on se rend compte que beaucoup sont dans des villes moyennes, dans des sous-préfectures, avec une volonté d'essaimer sur les territoires ruraux environnants. Tout à l'heure, j'entendais le directeur de la Comédie de Valence, et il a raison de se vanter de l'action qu'il mène sur les deux départements les plus concernés, mais pouvait rappeler aussi l'antériorité de cette idée. D'abord, certains de ses confrères et consoeurs le pratiquent. Quand on est au fédéré à Montluçon, on ne se contente pas de la population du centre-ville. Quand on dirige un festival comme celui des francophonies de Limoges et du Limousin, on va dans tous les villages environnants. Et puis, c'est une longue histoire. Hein. Au départ, tous les centres dramatiques nationaux avaient vocation à tourner depuis Colmar, depuis Toulouse, depuis Rennes, depuis Saint-Étienne, sur un territoire, effectivement, il dit 80 km de rayon, une centaine. Simplement, maintenant, il n'y a plus de troupes permanentes dans la plupart des centres dramatiques nationaux, donc c'est plus difficile à organiser, il faut des moyens pour le faire, et il a raison de le souligner.
Alors, on va évidemment reparler de l'offre, mais disons un mot aussi des publics, parce qu'il n'y a pas un public rural, mais des publics ruraux en réalité.
Alors, ça fait un certain temps déjà qu'on peut parler de rurbanité, hein, ou de rurbanisation de la France, et il n'est que de voir les mélanges de populations qui s'effectuent dans ces villages à la grande périphérie des centres urbains qui sont reliés à une demi-heure à peu près d'une préfecture ou d'une métropole, avec des nouveaux lotissements qui accueillent des artisans, qui accueillent des retraités, qui accueillent des agents de différents services publics, de l'éducation nationale ou de la SNCF ou d'Engie, et qui participent eux aussi à une forme de maillage et de brassage sur le territoire. Et puis, le Covid est passé par là, mais aussi une forme peut-être d'overdose d'urbanisation, de pollution, un rapport au temps qui commence à changer, un rapport à l'espace aussi, qui font que beaucoup de citadins ont opté pour une vie plus décentralisée. Et c'est vrai que les techniques numériques y participent. Hein. Les musiciens qui ont des home studios, les maquettistes qui travaillent à distance, ce sont aussi des acteurs culturels de territoire. Et puis, je voudrais signaler le rôle des producteurs. Parce que même si on a fait une enquête avec l'Observatoire des politiques culturelles, et notamment Jean-Pierre Saez, et on a constater que les profils des élus à la culture dans les territoires ruraux étaient très très variés, même si les professions libérales et les cadres supérieurs sont finalement presque aussi importants que dans le monde urbain, en tout cas par rapport aux agriculteurs. Mais parmi les exploitants, il y en a qui défendent des AOP, des appellations d'origine protégée, et qui ont compris que, au-delà du tourisme culturel, c'est pas simplement pour vendre du sel de Guérande ou du vin de telle ou telle contrée, il fallait aussi défendre et construire l'image d'un territoire. Bon, citons comme ça rapidement deux festivals qui se passent chez des viticulteurs, la Foire internationale d'art contemporain dans les Chais qui va commencer 28 avril à Pouilly-sur-Loire, donc en Pouilly-Fumé, ou encore au Prieuré-la-Chaume qui est à Vix en Vendée, les Arts par Nature, un festival autour des métamorphoses. Mais les exemples se multiplient, hein, chez des ostréiculteurs dans ma région d'adoption, comme chez des producteurs ou des éleveurs de toute nature.
Donc la culture peut évidemment être un outil de développement sur différents niveaux, et notamment de développement économique. Alors, la
ministre de la Culture, Rachida Dati, sa priorité, c'est la culture pour tous. Elle dit sa volonté de toucher les publics éloignés de la culture. Donc là, en ce qui concerne les zones rurales, quel est le premier problème? Est-ce que le premier problème, c'est l'enclavement, la question des transports?
C'est moins un problème aujourd'hui que ça ne le fut au temps où on pensait effectivement que le principal obstacle était d'ordre géographique, même si dans des zones enclavées ou de montagne, les délais d'acheminement peuvent être longs. Je dirais que ce qui compte surtout, c'est la possibilité d'aménager la rencontre. Dès lors qu'on fait un trajet avec sa voiture pour se rendre dans une commune avoisinante, on a besoin de cette horizontalité qu'on entendait vanter pendant le reportage. On a besoin de sentir que les gens font ensemble, hein, que ça part du bas. Ça ne peut pas dire que on va abaisser le niveau de l'exigence, mais qu'on va toujours se mettre à hauteur d'auditeurs, de spectateurs, et puis surtout qu'on va un petit peu atténuer cette frontière entre les amateurs et les professionnels. Je crois que c'est ça la première chose importante, pouvoir compter sur des relais qui sont déjà bien implantés et qui vont faire un travail de médiation, mais sans être tout seul et sans être seulement des professionnels de la transmission, mais en favorisant le dialogue entre des créateurs, des spectateurs et tout simplement des amateurs.
Benoît Grossin.
Mais on l'a entendu dans le reportage sur la comédie itinérante à Roussas, la maire sur place me l'a confirmé, ils n'arrivent pas à faire venir dans leur espace culturel les agriculteurs et les jeunes, donc la culture en milieu rural, mais pour quel public ?
Alors les agriculteurs ont, et les éleveurs en particulier, un problème d'emploi du temps qui est un peu connu et qui voit que leur disponibilité est parmi les plus réduites dans toutes les catégories socio-professionnelles. Bon, cela étant, il ne faut pas caricaturer et dans plusieurs professions, il y a aussi des parties de l'année dans lesquelles on est un petit peu plus disponible pour faire. Par exemple, pour accueillir un artiste en résidence. C'est ce qui avait été compris dans le département de la Nièvre déjà dans les années, à fin des années 80, début des années 90, par un artiste qui avait proposé des mariages morganatiques entre des artistes et des communes. Si on entre dans le temps long, celui de la résidence, où on n'a pas beaucoup d'argent, mais on propose le gîte et le couvert. Et quel couvert ça peut être avec des produits du terroir. Il se crée quelque chose, il y a des effets de proximité. Autre possibilité, celle choisie par la jeune troupe du Nouveau Théâtre Populaire. Ils ont inversé habilement le sigle TNP de Jean Villard pour avoir un service public à la portée des habitants en Charente, à Fontaine-Guérin, avec un festival qui a même eu les honneurs du grand festival d'Avignon, puisqu'ils y ont été invités récemment. Leur solution, ça consiste surtout à jouer la polyvalence, se faire eux-mêmes les porte-parole de leur action, prendre le temps de convaincre de proche en proche. J'ai toujours en tête ce que m'ont dit des artistes de cirque et des monteurs de chapiteaux, parce que j'ai pendant quelques années présidé un centre de ressources pour les arts de la rue et les arts de la piste qui s'appelait Hors les Murs. On disait, le premier contact avec le public dans une zone rurale, il vient quand on arrive avec les tringles, avec les haussières, avec le chapiteau, qu'on commence le travail. Et souvent, la communication se fait justement par l'intérêt réciproque pour le savoir-faire des uns et des autres. Et on se prête main force. Et là, il n'y a plus beaucoup de frontières, ni de niveau d'instruction, ni de catégories socio-professionnelles. Autre exemple, le symposium de sculptures monumentales qui s'est installé dans une ville de Coutellerie, à Thiers, en zone rurale, assez enclavée aussi dans le Massif central. Et bien là encore, échange de savoir-faire, partage entre des artisans et des artistes confrontés au métal.
Cela veut dire faire participer les acteurs.
Ça veut dire prendre en considération cette dimension d'horizontalité, ne pas mépriser ceux auxquels on va apporter quelque chose. Alors ça pose le problème fondamental de cette campagne pour la campagne, ce printemps de la ruralité. Ça sera certainement une belle foire aux idées, une belle bourse des projets, et on va voir remonter beaucoup d'expériences. De ça, il faut sans doute se féliciter.
D'autant que les idées ne manquent pas, on a entendu voilà. la créativité, les envies, il y en a énormément.
On ne fera pas la fine bouche devant cette pluralité d'expériences. En revanche, si la solution, comme semblait un peu le suggérer la responsable du Musée national d'art moderne, c'est de donner encore plus aux très grandes institutions nationales pour qu'elles décentralisent à l'ancienne, c'est-à-dire en envoyant des camions sur les routes, un petit peu comme Firmin Gémier l'avait pensé avec son théâtre national ambulant. Enfin, bon, il sillonnait vraiment toute la France, mais ça s'est soldé quand même par un échec financier retentissant en 1912. Le risque qu'on a, c'est d'abord qu'il y a des territoires qu'on ne desservira pas, et puis surtout, on va encore augmenter cette balance de crédit qui veut que 50% de la dépense publique du ministère de la Culture, je ne parle pas de l'État en général, s'exerce dans Paris intramuros.
Alors, mais bien on sûr, peut se dire,
au profit de la décentralisation.
Et on peut se dire qu'il s'agit d'offres bien rodées, donc ça ne coûtera pas forcément beaucoup plus.
Alors ça, c'est souvent une erreur de penser que la logistique suivra comme l'intendance et qu'elle a un coût marginal. En général, quand on part à la dimension du territoire, et si on s'appuie sur les collectivités territoriales qui ont déjà les régions, les départements, les communautés de communes, les communes elles-mêmes, des projets de proximité, si on ne se contente pas d'appels à projets pour distribuer généreusement la manne de quelques millions de crédits dans une période où on en a supprimé 200 pour la culture, dont 100 pour le spectacle vivant, il faut quand même le rappeler.
100 millions et 200 millions.
Voilà. Eh bien, on va peut-être pérenniser des solutions qui impliquent ces acteurs de terrain dont nous parlions. Mais pour cela, il faut que ça ne soit pas uniquement en fonction de l'atmosphère politique du mouvement ou de la pré-campagne, parce qu'on voit qu'au niveau national, ministère de la Culture, ou au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, quelquefois les présidents, même quand ça se passe dans la ruralité chérie, coupent le robinet.
Donc pour vous, il faudrait favoriser les initiatives locales et les accompagner ?
Il faut déjà prendre conscience de l'ensemble du maillage du territoire existant. Il faut renouer au niveau des directions régionales des affaires culturelles, qui représentent le ministère de la Culture, les rapports avec les régions, les départements. Ils sont quand même au plus près de ces territoires et de ces populations. Il faut se souvenir que la priorité des priorités dans toute politique, c'est la transmission et donc l'éducation artistique aussi dans ces communes rurales qui ont beaucoup moins de possibilités d'envoyer les enfants dans des ateliers que quand on est en centre-ville. Donc si on a une ambition 100% éducation artistique et culturelle, que tous les enfants soient touchés. Ben, peut-être qu'il faut d'abord augmenter encore plus la part collective du Pass Culture. Je rappelle que c'est seulement les crédits du Pass Culture qui n'ont pas été touchés. Tout le reste du ministère est à l'amende pour faire des économies. Donc peut-être il faut en diriger davantage et peut-être vers ces territoires ruraux. Mais il existe dans les régions déjà des projets culturels de proximité qui sont cofinancés par les DRAC. Alors renforçons cela et misons pas simplement sur l'année prochaine ou jusqu'à l'élection municipale de Paris, pour prendre une date au hasard. Essayons d'aller un petit peu plus loin et de miser sur les 15 prochaines années.
Et les élus sont très en demande d'aide en ingénierie culturelle, hein, parce qu'ils disent qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir monter des projets, répondre à des appels d'offres, coordonner, planifier, etc. Parce que en réalité, il y a des projets au niveau local qui souvent n'arrivent pas à voir le jour à cause de ce manque d'aide très concrète.
Oui, encore que maintenant il y existe une expertise auprès des grandes collectivités territoriales, je pense aux départements et aux régions. Demandez à l'Association nationale des directeurs des affaires culturelles des collectivités territoriales, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a aussi des formes d'action qui intègrent dès le moment de la conception cette coopération entre les acteurs. C'est un peu l'idée des droits culturels, si vous voulez, qui sont rentrés dans la loi depuis 2016 et 2017, qui veut qu'on se contente pas simplement de reconnaître les droits que chacun doit pouvoir exercer, mais que on invite chacun à mettre en musique, mettre en vigueur ses droits à travers le montage de projets. Ben, prenons la petite ville de Lorme dans le Morvan, hein, qui est une toute petite cité, mais bon, connue déjà pour son festival de chansons. Il y a là des tiers-lieux qui pullulent autour de la photographie, autour de la musique, autour du numérique. Et ce sont des endroits où on peut aussi bien penser recyclage que atelier de réparation de vélos, que café coopératif, que AMAP et panier du ménager ou de la ménagère, et aussi évidemment projet culturel. Donc quand on travaille à cette échelle-là, en général, ça donne des bons résultats.
Alors, vous avez déjà abordé la question des coupes budgétaires, mais on peut peut-être prolonger quand même un peu, Benoît Grossin.
Oui, dans ce contexte de coupes budgétaires, que peut-on attendre des assises nationales de la culture en milieu rural, sachant, on le sait, que le financement de la culture est assuré principalement par les collectivités territoriales ?
Autour de 2/3 à peu près des financements pérennes et réguliers pour non seulement la diffusion, la médiation, l'action culturelle de territoire, mais même pour la création, proviennent, en dehors de Paris intramuros, des collectivités territoriales de tout niveau. D'abord les villes, ne l'oublions pas, et parmi les villes, des toutes petites villes qui ont des devoirs, une responsabilité par rapport à leur environnement rural. Je pense par exemple au conservatoire de musique, hein, ou aux départements qui financent à travers des associations de développement musical des chorales. Alors, ce qui serait le plus décevant, c'est que toute cette belle mobilisation débouche simplement sur un nouvel appel à projet ou sur un palmarès d'une trentaine de projets que l'on aiderait pour 3 ans et qui retomberait après. Le plus intéressant serait que, à tous les niveaux de la coopération entre l'État et les collectivités territoriales, on décloisonne, on pense transversalité, hein, parce que faire des chemins de traverse à la campagne, c'est très bien, mais ça peut marcher aussi en milieu urbain, qu'on apprenne à travailler avec le secteur hospitalier, qu'on apprenne à travailler avec les foyers de jeunes travailleurs, qu'on retrouve, parce qu'ils existent encore, les associations d'éducation populaire qui, depuis plus d'un siècle, travaillent en milieu rural, les foyers ruraux, les foyers musicaux ruraux, qu'on s'appuie sur même des MJC, en Maison des Jeunes et de la Culture, en milieu rural, et qu'on conforte un petit peu ces acteurs, qu'on leur donne confiance, comme à cette jeune fille que vous aviez interviewée, Benoît Grossin, et que on leur dise que ça s'inscrit dans la durée et qu'on comprenne que c'est aussi un instrument de brassage social qui peut avoir son importance au moment où chacun a tendance à s'enfermer dans sa bulle numérique.
Quand elle s'est rendue dans le Lot au début du mois, Rachida Dati a déclaré « Je ne suis pas favorable au financement de structures, mais plutôt de projets structurants ». Comment est-ce que vous entendez cette déclaration et est-ce qu'elle vous paraît correspondre aux besoins actuels ?
Tout dépend où est-ce qu'on met le curseur entre projet et structurant. Si c'est structurant, alors on se comprend bien et ça va laisser des traces. Si c'est seulement un projet, c'est toujours très beau, mais je rappelle que dans toute la logique des appels à projets, ce sont en général les grosses structures les plus citadines qui l'emportent parce qu'elles ont les chargés de mission pour remplir les dossiers et remplir les petites cases sur les tableaux Excel.
Merci Emmanuel Vallon. Le grand reportage La culture sur les chemins de campagne était signé Benoît Grossin, réalisation Annie Bro, Guillaume Ficheux était à la technique. Merci à Eva Kagaratchev et à Véronique Lefalère pour la documentation. Enfin, je vous invite à partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.